Le festival Vue du Québec à Florac revient.
Ah ben enfin des bons films.
Du mardi 8 au dimanche 13 avril.
8 lieux,
44 films,
une quinzaine d'invités,
une compétition de courts et de longs métrages,
des ateliers pour découvrir le 7e art sous tous ses aspects.
Et le mercredi à partir de 10h.
Un plateau radio exceptionnel en direct de la pompe
sur Radio Bartas
107FM.
On est toujours en direct de la pompe et on est bien, Daniel, toujours pour m'accompagner. Deuxième partie de plateau et on accueille Jean-Marc Hiroy. Bonjour.
Bonjour, bon matin, bon matin.
Et Guy Edouard aussi, bonjour.
Bonjour, bon matin.
Tous les deux réalisateurs, on va parler, alors on va enchaîner tout de suite parce que Marc-André doit partir puisque la projection d'Ababouiné va se terminer pour les collèges et tu vas aller en discuter avec eux. On va parler de ce documentaire, alors qui est assez exceptionnel. Je disais juste avant de lâcher l'antenne que je n'avais jamais vu de documentaire qui s'appelle Des histoires inventées, donc sur la vie, et qui utilise des scènes de Marc-André. D'où elle est partie cette idée en fait de documentaire assez exceptionnel?
Ben, en fait, ça part ben, de ma relation avec Marc-André depuis bientôt 20 ans aussi. Donc, c'est un projet qui me tenait à cœur parce que, bon, Marc-André, c'est une des raisons principales pour laquelle je fais du cinéma aujourd'hui. Puis je trouvais ça que ça allait de soi, que mon premier film, je lui dédie d'une certaine manière. Donc, j'ai essayé de penser le documentaire autrement. C'est ce que j'essaie de faire quand je fais du documentaire, parce que j'ai quand même une pratique hybride à la fois en documentaire et en fiction. Mais quand je travaille en documentaire, j'essaie de, sans dire que je réinvente la roue, là, je veux pas me donner
En tout cas, mais... c'est très, 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 très original, la manière dont tu l'as pensé.
C'était de voir... parce que la force du cinéma de Marc-André réside dans les personnages, beaucoup, dans... la manière que les personnages sont présentés, sont compactés, sont créés, tout ça. Puis je m'étais dit, comment ces personnages-là pourraient vivre dans un univers parallèle? Donc, c'était d'aller où seraient rendus les personnages de chacun de ces films en date de 2017-2018, quand on a tourné le film. Donc, c'est Marc-André qui erre au travers des tableaux qui sont habités par... pas les fantômes de ces personnages, mais par l'interaction de ces personnages qui se déroulent devant ses yeux. Là.
Marc-André, ça fait quoi d'être finalement spectateur de ses propres films, en fait? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je pense que c'est un peu ça l'idée.
J'ai donné toute ma confiance à Jean-Marc, mais je ne savais jamais ce que j'allais faire d'une journée à l'autre. Bon.
Pour garder la surprise, en fait. Ouais, je ne voulais pas dire qui allait sur le plateau, fait qu'il n'y avait pas la même call sheet que les autres.
Oui, et puis, c'est ça, je ne savais jamais où j'allais aboutir, et puis, donc, je me promenais comme un fantôme devant une reconstitution poétique et merveilleuse organisée par Jean-Marc de... certains extraits de mes films, ou plutôt de façon à inspirer librement, parce que Jean-Marc n'y est pas beaucoup là-dedans.
Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de poésie, en fait, et beaucoup de... Comment j'appellerais ça? C'est très posé, en fait. Bon, la manière dont Marc-André a parlé, mais je trouve qu'on retrouve vraiment toute sa personnalité. C'était aussi le but du jeu.
Oui, c'était tout simplement ça, donc de voir ça se dérouler devant nous, puis d'en être témoin. Et... d'entrecouper ça d'une narration, en fait, qui devient plusieurs entrevues que j'ai faites avec Marc-André, que j'ai déconstruites et que j'ai essayé de créer une narration avec ses réponses et qui faisait qu'on se promenait d'un tableau à un autre, là, qui couvre l'ensemble des films jusqu'à l'avant-dernier, en fait. Ouais.
C'est ton premier film?
C'était mon premier long,
oui. Et alors, c'est un oui, long métrage, effectivement, puisqu'on reviendra sur tes courts-métrages tout à l'heure avec Daniel. Mais est-ce que l'idée t'est venue d'emblée en te disant c'est comme ça que je dois aborder le cinéma? Voilà, il n'y a pas d'autre, pas une fiction, pas non, quelque chose ancré dans une réalité fictive, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi.
Ah non, ça a été une longue traversée du désert, en fait, de trouver comment prendre ça, tu sais, comment prendre cette bébite-là. Parce que je savais que j'allais pas faire une pure fiction, puis je savais que je voulais pas faire non plus un pur documentaire. Il est né à tel endroit et après la pause, on parle de ci et de ça. Donc, je voulais pas une approche télévisuelle ou juste un show de chaise, que j'appelle. Donc, c'était vraiment de voir comment on peut le penser autrement, puis faire vivre une certaine fiction, une poésie, comme tu l'as souligné aussi, Ben. Donc, c'était de structurer ça, puis essai-erreur, et après ça, de voir quel personnage que j'associe à quel film aussi. Parce que, tu sais, Marc-André travaille un peu avec une notion de troupe aussi. Donc, il y a certains comédiens qui reviennent dans plusieurs films. Donc, je voulais vraiment associer les comédiens à chacun des films, puis sans dédoubler aussi. Donc, il y a eu un tricotage avec les disponibilités des gens aussi et toutes les contraintes qu'on y connaît en cinéma, là. Mais, ouais.
C'est marqué hein, dans le petit programme qu'on a du festival qu'on parle de votre famille de cinéma, Marc-André, de ta famille du cinéma. Toi, tu le vois vraiment comme ça. Autour de toi, les comédiens, comédiennes qui t'entourent, c'est vraiment une famille.
J'aime ça découvrir de nouveaux acteurs comme Maïla, qui est formidable. Mais j'aime ça aussi écrire pour des acteurs que je connais. Et puis, souvent, en cours d'écriture, je consulte des comédiens. Moi, j'appelle pas l'agent, j'appelle direct les comédiens avant. Donc, il y a une certaine implication des acteurs. J'aime bien avoir leur feedback sur l'évolution des personnages aussi. Mais c'est pas systématique. Je dois vous quitter parce que je dois répondre à des étudiants qui viennent de voir le film. Et puis, merci Florac, merci Ben.
Merci à toi, Marc-André Fortier. Et allez voir tous ces films, vraiment, sont extraordinaires. Et des histoires inventées, si vous voulez mettre un pied dans la filmographie de Marc-André, ce sera vendredi à 14h. Daniel, tu vas le découvrir. Tu vas voir.
Ben oui, parce qu'on fait des programmations, mais des fois, on n'a pas tout vu. Et surtout que Jean-Marc, je suis très heureux qu'il soit là, parce que c'est un invité surprise de dernière minute qui s'est rajouté. Mais j'aimerais qu'on parle de ses courts-métrages, ouais. Parce que excuse-moi, j'oublie son nom au complet.
Philippe David,
son complice, c'est probablement du grand, grand court-métrage qu'ils ont fait. Puis on a Guy Edouin aussi, qui a fait d'excellents courts-métrages. Et le court-métrage québécois, moi, j'aime le rappeler, est très, très bon. On est très prolifique au Québec. Nos films voyagent beaucoup, nos courts. Partout dans le monde.
Alors, c'est toi qui décides par quoi on commence. Est-ce qu'on ne se prendrait pas d'abord une petite carte postale de l'Estrie avec Guy? Une petite,
Oui.
Guy, est-ce que tu pourrais nous faire une petite carte postale radiophonique de ce qu'est l'Estrie et qui est un décor formidable pour tes films?
L'Estrie, c'est une région des cantons de l'Est. Donc, on est. Faut savoir que le territoire a été destiné en seigneurie à l'époque, donc qui était tout le côté français. Puis, il y a une section qui a été découpée en cantons, qu'on appelle les cantons de l'Est. Donc, c'est une région qui est un peu plus à la base anglophone, mais ça, je dirais que c'est son passé. Puis, ça s'étend des Appalaches, qui sont une très extrêmement vieille chaîne de montagnes arrondies, des monts verts très, très sensuels pour moi, qui évoquent plein de choses. Puis, ça nous amène à peu près jusqu'au, je dirais pas jusqu'au à la rivière Richelieu, mais un peu avant ça. Donc, c'est une région... C'est drôle, c'est la première fois qu'on me demande de la décrire, mais il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de mystérieux. Il y a plein de mystères dans les cantons de l'Est. Je ne sais pas si c'est le côté anglophone, cette espèce de passé-là, mais c'est une architecture qui est totalement différente aussi de ce qu'on retrouve ailleurs au Québec. Il y a vraiment un mélange de maisons canadiennes, mais aussi de maisons loyalistes, des maisons très typiques en briques rouges, des corniches blanches. Donc, il y a quelque chose de très typé dans l'architecture, puis même dans la... Même dans la toponymie du paysage, c'est très différent de ce qu'on retrouve ailleurs au Québec.
Et Guillaume Sapin, directeur artistique du festival, est venu nous en parler à la radio et il m'a dit un truc mais que je trouve complètement fou. Je crois que c'est une bibliothèque, en fait, où il y a une entrée du côté Québec et du côté états-unien.
Oui, ça, c'est la bibliothèque
de Stanislaus. C'est complètement fou.
Oui, ben là, ça va moins bien. Je dirais la bibliothèque, c'est ces jours-ci.
Il paraît qu'il y a une entrée qui est fermée, non?
Oui, les États-Unis ont fermé l'entrée du côté canadien. Mais il y a toute une histoire qui est extrêmement riche le long de la frontière américaine, surtout pendant les années de la Prohibition. Il y a vraiment eu l'histoire de cette bibliothèque-là, mais il y a une histoire très intéressante d'un hôtel qui était à cheval sur la frontière aussi. Puis pendant la Prohibition, l'alcool frelaté passait d'un côté de l'autre, la police rentrait au Canada, sortait aux États-Unis. Donc il y a eu beaucoup d'histoires de. En tout cas, il y a un film à faire là, pour sûr. Je pense que même Pascal Bussière avait une idée là-dessus, mais il y a vraiment. Il y a des histoires formidables là, de.
Ce qu'on appelle les bootleggers, beaucoup, là, donc, oui. Qui cachaient de l'alcool dans leurs bottes. Donc, c'était pour ça qu'on appelait ça des bootleggers. Donc, ils passaient la frontière.
Ouais, c'est incroyable comme histoire. Transition toute trouvée pour parler d'un de tes films qui sera projeté ici, qui s'appelle Frontière. Alors, déjà, le décor, c'est en Estrie, hein, si je ne me trompe pas. Et forcément, là, en ce moment, ça fait écho un peu à ce qu'on vient de dire aussi. C'est quelque part une personne qui veut défendre son territoire envers et contre tout.
Exactement. Et c'est drôle parce que Roger Frappier, qui est aussi producteur du film Ababouiné, quand il a vu le film, parce qu'il est produit par sa fille, c'est un grand producteur québécois, puis il m'a dit quelque chose qui... Il me dit, c'est assez drôle, on ressent que ce film-là a été écrit pendant la première présidence de Trump. Parce que déjà, cette idée de frontière-là était très, très à l'époque au cœur de l'information. Puis moi, j'habite littéralement, puis le film a été tourné sur la ferme où j'habite, dans la maison où mes arrière-grands-parents sont nés, où maintenant j'habite. Puis il y a cette espèce de rapport-là qui est très... qui est très fort. Mais j'habite à 4 km des États-Unis, donc forcément, tout ça... On a passé un hiver très anxiogène, je dirais.
Et pour c'est être pas fini.
C'est
pas
fini. Non, c'est clair. Moi, 4 ans d'hiver, là, je pense.
Puis j'ai eu la chance d'aller chez Guy. Et ce qui est fou, c'est que quand on arrive chez lui, c'est magnifique. Et oui, c'est propre au cinéma. C'est vraiment parfait pour faire tes films. Puis en même temps, t'as tourné sous différents angles. Fait qu'on pourrait... Tu pourrais continuer à tourner sur ta ferme et aux environs. Puis on reconnaîtrait pas nécessairement les lieux.
Bien, je pense que ce qui reste typique, c'est la chaîne de montagnes, c'est les Appalaches, le Mont Pinacle. Il y a un pont couvert, qui date de 1845, donc qui est très typique aux premières années du Québec aussi. Mais oui, je pense qu'avec ça, bien, il y a aussi. Bon, je viens du court-métrage à la base. J'ai tourné tous mes courts-métrages chez nous. J'ai tourné Marécage, qui va être présenté aussi samedi sur la ferme. Donc, il y a quelque chose. C'est niaiseux, mais il y avait une espèce de devoir de mémoire aussi, de cartographier. C'est une l'architecture des fermes du Québec, ces vieux bâtiments-là, c'est quelque chose qui se perd. On a de moins en moins de fermes au Québec. Les bâtiments sont laissés à l'abandon. Fait qu'il y avait quelque chose de filmer ça aussi, de le marquer dans le temps. Parce que même si on parle de marécage versus ce que ça a l'air maintenant... Ça a évolué, le temps a changé. Il y a eu des tempêtes, il y a des granges qui sont parties au vent. Fait que le dispositif théâtral ou même scénique ou cinématographique, ben il évolue avec le temps. Fait que oui, probablement que comme c'est drôle parce que comme Marc-André, il y a tellement quelque chose de fort et propre à ses films qui a duré. J'espère avoir quelque chose qui va durer aussi sur la durée propre à ce lieu-là.
Parlons aussi de direction d'acteurs, d'actrices. Tu as travaillé dans Marécage et dans Frontières avec Pascal, qu'on aura la chance de recevoir tout à l'heure. Pascal, qui a plus de 40 films, je crois, à son actif, qui a commencé sa carrière en 84. Comment ça se passe, la direction d'une comédienne, d'une actrice comme ça? Est-ce que c'est simple ou alors, au final, c'est toi qui as la pression? C'est elle qui a la pression? Comment ça s'est passé?
Ni un ni l'autre. Avec Pascal, il y a une espèce d'alchimie. Mais c'est sûr qu'on a fait 3 films aussi. T'sais, on est rendu à notre 3e long métrage. Bon, à Marécage, on se découvrait. Marécage, c'est un premier long métrage fait à 29 ans. C'était avec une cinématographie audacieuse. Il y avait quelque chose qui était très sans filet aussi. Mm-hmm. Puis comme je le disais hier soir, Pascal a refusé 3 fois de faire le film. Puis je me suis souvenu pourquoi. Bien, elle venait d'avoir ses enfants. Le film est quand même difficile à ce niveau-là. Puis elle sortait surtout d'une expérience de théâtre qu'elle avait trouvée très confrontante. Je pense qu'elle avait joué Médée ou Antigone. Donc, elle sortait tout juste de ça. Puis là, le fait de présenter ce projet-là, il y avait quelque chose de très... Mais dès que je l'ai rencontré, on ne se connaissait pas, je savais que c'était elle. Puis j'étais vraiment prête à aller. Le non n'était pas une option. Donc j'étais même prête à. J'étais vraiment prête à aller faire du camping chez eux. Mais c'est ça, mais c'était ça. C'était un premier projet audacieux. Puis j'ai eu beaucoup de refus quand même. Puis même Luc Picard, c'était un non. Ça, il a fallu que je revienne à la charge, que je trouve des arguments.
Mais l'abnégation a payé finalement. Et au final, c'est magique. Est-ce que toi, ça t'a transcendé encore plus pour te dire il faut pas que je rate ce film?
Bien, c'est un premier film. Écoute, c'était tellement... Il y avait des éléments biographiques. Je tournais sur la ferme de mes parents. C'était immense. C'était quand même un gros film à l'époque pour moi. Je pense que honnêtement, j'ai réalisé le film que j'ai fait à la première mondiale à la Mostra de Venise.
C'est la classe, quand même.
J'ai compris... Non, mais je sais pas, ça... Pas que j'ai compris le film que j'avais fait, mais j'ai compris les choix artistiques que j'avais faits. Puis la réaction a fait en sorte que ça a comme cristallisé. Puis ça a été un des plus beaux... Pour moi, ça reste le plus beau moment de ma vie. Puis j'étais avec Pascal, puis on a vécu ça ensemble. Puis après ça, notre travail, mais il y a quelque chose qui est très indicible dans notre manière de travailler. On va se regarder, ça va être un clignement d'œil, elle va comprendre. Je vais dire non, puis on se regarde. Puis après, okay, j'ai compris. Mais c'est ça, mais il y a un travail, c'est une alchimie qui est pas...
Oui, et c'est beau de voir ça, un réalisateur et une actrice évoluer ensemble qui se retrouvent quelques années après, parce que ça se sent dans le film. Il y a une espèce, c'est ça, d'alchimie, il y a une espèce de confiance aussi, et vous allez toujours plus loin ensemble.
Bien, c'est ça que j'allais dire, c'est qu'on peut aller, il y a une pudeur entre les deux qui est plus là, puis on peut aller beaucoup plus loin... profondément dans le personnage, mais ça amène la confiance. Puis Pascal est quand même une actrice très facile aussi, très intuitive, mais tu sais, c'est une intuitive, donc il y a vraiment, c'est une alchimie, parce que ça se passe pas comme ça avec tous les acteurs.
J'imagine, transition tout trouvée, puisque Pascal sera présidente du jury des courts-métrages, et oui. On va revenir, mon cher Daniel, au court-métrage avec Jean-Marc,
oui.
Notamment avec Nevermind, je pense, qui sera diffusé avant des histoires inventées, pardon.
Oui.
Vendredi, et une carte blanche, je crois.
Oui, bien, surtout la carte blanche, jeudi 10 avril à 10h. Faut pas manquer ça. Ça va être trois courts-métrages de Jean-Marc Roy avec Philippe David et aussi trois courts-métrages de Joël Vaudrin. Jean-Marc, franchement, tu as vraiment marqué le court-métrage. Moi, Bleu Tonnerre, ça reste un de mes courts-métrages préférés. C'est une comédie musicale, mais atypique.
As-tu brûlé le punch, là?
Non, pas du tout. Au contraire, c'est l'attrait de ce film-là, parce que dans ce milieu-là, on ne s'attend pas à voir de la musique puis du chant. Mm-hmm.
Ben, c'était très audacieux. Je ne sais pas à quel point c'était audacieux. Il faut se remettre quand même en contexte que ce film-là a été écrit, bien qu'il ait été tourné en 2014, il a été écrit en 2010. Donc, c'était avant l'espèce de renouveau de la comédie musicale, là, les Glee et compagnie, là, tout ça. Donc, on était vraiment hors champ là, quand on l'a écrit. Puis, ben, je pense que ce qui est intéressant dans le rendu, c'est que c'est une comédie musicale faite par deux dudes qui détestent les comédies musicales. Donc, c'est sûr que ça a un impact. Et c'était important pour nous de repenser la comédie musicale, pas aller dans des envolées lyriques, pas aller dans de la surimpression vocale non plus. Donc, ce qu'on entend, c'est la captation à la perche sur le plateau. Donc, on a eu quelques petites astuces là, pour que les comédiens puissent avoir un retour de son et tout, mais c'est vraiment c'est de la prise de son direct là, pour le film,
ouais. C'est peut-être pour ça que je l'ai tant aimé. Moi aussi, je déteste les comédies musicales d'habitude. Donc, on se retrouvait là-dessus. Mais bref, il ne faut pas manquer cette... Pour les amateurs et les amoureux du court-métrage, à 10h jeudi matin, c'est un peu tôt, mais franchement, vous allez être ravis. Là. C'est un programme exceptionnel.
C'est offert aussi à Joël Vaudreuil, qu'on recevra tout à l'heure en dernière partie de plateau. Le court-métrage, c'est vraiment un pied, un passage obligé. Et je vous pose la question à tous les deux pour arriver au long-métrage.
Ben oui et non. Dans le sens, on se fait les dents, c'est sûr. Moi, j'ai eu la chance très tôt dans ma... j'avais déjà employé le mot carrière, là, mais très tôt dans mon parcours, d'avoir de l'équipement à moi, puis de me permettre de partir avec, avec des chums, puis deux, trois bouts de ficelle, puis 4 $, puis on se commande une pizza, puis on fait un film. Donc, tu sais, ce qui m'a permis de voir ça comme des laboratoires, tu sais, je dois avoir fait autour de 200 courts-métrages, donc... C'est sûr, ils sont pas tous bons, on s'entend, mais il y en a à l'intérieur de ça qu'il y a des idées qui sont ressorties puis qui ont été réutilisées, que ce soit dans Crème de menthe, dans Bleu tonnerre ou dans d'autres films. Donc, ça a vraiment permis d'expérimenter, de tester des affaires et de pouvoir le présenter devant un public aussi. Donc, tu présentes ça, tu vois la réaction du public par rapport à une œuvre qui peut devenir éphémère parce que si c'est pas bon, bien, au moins tu l'aurais essayé puis tout ça. Donc, moi, ça a été comme ça mon approche du court-métrage. Puis, tu sais, parallèlement, j'ai commencé à faire des films en 99 puis aller jusqu'en 2015. Parallèlement, j'étais directeur de centre d'artistes, je travaillais dans le milieu de l'art actuel aussi. Donc, j'étais toujours confronté à différentes formes d'art aussi. Je pense qu'il y a eu une influence dans mon approche du court-métrage aussi, de toujours le penser autrement. Je reviens souvent à ça, mais c'est pour moi, c'est, tu sais, il y a l'adage qui dit « Toutes les histoires ont déjà été dites, mais elles n'ont jamais été racontées par toi. » T'sais, bon, t'sais, non, mais c'est ça vrai. Pareil. C'est donc, à partir de qu'on sait ça, ben comment on essaie de le tweaker ou comment on essaie de le présenter différemment. Puis c'est là que ma réflexion vient. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup travailler avec les contraintes. Fait que des fois, je peux me donner, quand je suis bloqué ou quoi que ce soit, bien, je me donne une contrainte de style. Je me donne une contrainte de quelque chose. Puis là, OK, ça peut me faire débloquer. C'est comme ça que j'ai avancé les courts-métrages ou mon approche du court-métrage, justement.
Guy, ton rapport au court-métrage, toi, c'est quoi?
Moi, je pense qu'il est un peu plus traditionnel dans le sens que j'ai commencé, j'ai fait du court-métrage à l'université. J'ai eu la chance d'avoir un professeur qui m'a remarqué à l'université puis qui m'a comme un peu sorti, Hubert Évreau, je l'en remercie, mais qui m'a un peu sorti du programme académique pour me faire travailler encore plus que les autres. Puis c'est là que j'ai développé une première trilogie de court-métrage. Puis parallèlement, ben, j'étais directeur d'un festival de court-métrage étudiant. C'est là que j'ai connu Sylvain Corbeil, qui est maintenant le producteur de Xavier Dolan avec Nancy Grant. Donc, on est parti. Tu sais, Métafilm est parti avec mes premiers courts-métrages. Là, Simon Lavoie aussi. Mais c'est drôle parce qu'on a une approche complètement différente. Moi, je viens d'un cinéma qui demande des moyens, tourné en 35, anamorphique. Qu'on a fait avec des bouts de ficelle, là, mais...
Alors, est-ce que tu peux expliquer pour les auditeurs et auditrices anamorphique, oui. Tournée en 35?
Ben, j'ai eu un grand privilège, mais ces films-là datent quand même de plusieurs années, mais j'ai eu la chance de tourner mes premiers films en pellicule. Le format anamorphique, ben, c'est un format qui n'était plus utilisé au Québec depuis les années 70, qui est un format avec une lentille spéciale qui fait que l'image est très... Et c'est drôle parce que l'anamorphique... qui fait des images qui sont très, très horizontales, très panoramiques. Et c'est drôle parce que l'anamorphique est vraiment devenu mon crayon. Bien, en tout cas, ce format d'image-là, lentille ou pas, et qui se plaît très bien au décor de Canton de l'Est, pour faire le lien à ce décor-là qui est chez nous, l'espèce de je n'arrête pas d'avoir le landscape, mais l'espèce de... Même pour le paysage, ouais, le panorama, même la frontière, le tracé de la frontière, il y a toujours cette réflexion-là derrière le cadre, en fait.
Et moi, juste rebondir là-dessus, moi, un de mes plus grands regrets dans notre programmation cette année, tu parlais que ça te prend des moyens pour avoir tes courts-métrages, mais ils sont durs à trouver tes courts-métrages maintenant. C'est fou.
C'est fou. À part des DVD.
On voulait les programmer, mais c'est impossible.
Même toi, tu n'as pas de copie?
Moi, j'ai des copies DVD, mais qui ne sont pas... c'était mon grand rêve, éléphant.
Ah oui. Peut-être un jour.
Peut-être avec Marécage. Un combiné de renumériser ces films-là, parce qu'effectivement, ça c'est des films qui ont voyagé énormément.
Oui, puis c'est des films qui sont faits pour le grand écran. Le court-métrage mérite le grand écran aussi.
C'est vraiment, c'était toutes des années où au Québec, il y avait une effervescence sur le court-métrage. C'était complètement fou.
Ouais.
On se promenait, tout le monde se promenait partout dans les festivals. Il y avait une espèce... il y avait même un Denis Villeneuve qui sortait un court-métrage avec nous, je pense en 1900, Next Floor, on parle de...
2011-12. Ouais, dans ces eaux-là. Ouais.
Qui, lui, s'est mis à voyager... Mais en même temps, c'était extraordinaire parce que le film de Denis, c'était la locomotive pour tout le reste.
Ouais.
Mais ça a été... Oui, ça a été des grandes années. Mais ça l'est encore quand même. Le oui. Québec est une pépinière formidable pour les cinéastes.
Et puis, à chaque fois, je trouve que Vue du Québec donne la part belle au cours, hein, puisque quasiment tous les films sont précédés d'un court-métrage. Oui. Il y a jeudi matin et il y a samedi après-midi. Alors moi, je suis à chaque fois fan de ce qui se passe le samedi après-midi.
Puis on a la compétition aussi.
Et la compétition de cours. Et justement, parlons de compétition. Alors, je n'ai pas les films en compétition dans le programme, mais peut-être que j'ai mal lu. Mais je crois que vous êtes tous les deux en compète ou
Non. Non. Non, on est tous les deux pas en compète. C'est ça. Il manquait juste une négation, en fait, Ben. T'étais à une négation près de la vérité.
Si proche, c'est pourtant si loin.
Non, parce que c'est des premiers et des deuxièmes courts-métrages, puis ils sont way over that, comme on dit.
Mais moi, j'aimerais ça refaire du court-métrage.
Ben, c'est, vas-y. C'est... juste fais-le.
Fais-le et l'année prochaine.
Oui, mais ça demande des. C'est ça, c'est.
T'as le co-programmateur du festival. Alors,
C'est ça, on attend juste.
Non, mais t'as un iPhone, Guy, tu peux.
Oui.
Ceci dit, si on parle de compétition dans un festival, pour vous, c'est important, c'est cool, c'est sympa ou ça sert à rien?
Mais on a la réponse. Non,
c'est la dernière question en même temps.
En fait, c'est sûr que les festivals, c'est, sur plein de plans, c'est intéressant. C'est, oui, la rencontre humaine, la rencontre avec le public, mais c'est d'autant plus intéressant quand tu vas à la rencontre d'un public qui n'est pas le tien. Puis de voir comment ça peut faire écho. Là, ici, il n'y a pas la barrière de la langue, mais quand on présente un film, exemple comme Bleu Tonnerre, on est allé le présenter en compétition à Vladivostok.
Oh, wow!
Ben, c'était comme, de un, il y a un programmateur qui a vu l'intérêt du film, et de deux, il y croyait assez pour se dire, non, le film va vivre en sous-titres russes, tu sais. Puis, tu sais, reste que c'est une comédie musicale, donc il ne faut pas que tu... fasse juste une traduction pure. Il faut que tu fasses une adaptation aussi parce que, tu sais, il faut que tu gardes la musicalité puis tout ça. Fait que moi, c'est ce que j'aime beaucoup des festivals. c'est, tu sais, même chose quand tu vas présenter tes films au Brésil ou tu vas présenter dans ailleurs que dans la francophonie, c'est de voir que l'art transcende la barrière de la langue puis que c'est surtout que dans le court-métrage aussi, les gens sont plus enclins à vouloir lire des sous-titres, ce qui est plus difficile, je te dirais, pour du long-métrage. Quoique maintenant, avec les Netflix de ce monde, les gens sont de plus en plus habitués à vivre avec le sous-titre, mais voilà, de 15-20 ans, c'était pas le cas. Fait qu'au moins, le court-métrage, tu te dis, bon, ben, gars, dans le pire des cas, si j'aime pas ça, ça va durer 15 minutes. Fait que, tu sais, non, mais il y a ça c'est aussi, là, dans un programme. Oui. Dans un programme. Fait qu'il y a les rencontres humaines, il y a les rencontres de public, et il y a aussi, on se le cachera pas, de voyager et pour l'expérience personnelle aussi, ça devient inspirant. Là. C'est sûr qu'il y a des déplacements qui ont eu un impact sur des projets que j'ai faits, peut-être inconsciemment ou consciemment, mais oui, l'ensemble de ces réponses, c'est oui, Ben, oui.
Guy, pareil, un peu la compète. Et pareil, quand je vois la Mostra de Venise ou ce genre de festival, c'est quand même assez prestigieux quelque part.
Mais je pense que ça dépend des festivals. Mais je pense que, comme il disait, c'est la rencontre avec le public. On ne sait jamais comment les films vont être. Moi, j'ai toujours fait des films qui ont polarisé. Fait que ça a souvent été un ou l'autre. Donc, c'était ou la Mostra de Venise, ou là, une ovation de 10 minutes, et c'est extraordinaire, c'est le plus beau jour de ma vie. Mais deux semaines après, ça peut être... Je me souviens plus où c'est arrivé, mais la réaction était très... au Canada, au nord de Toronto, le festival...
Sudbury.
À Sudbury. Réaction hyper hostile. Gens très fâchés, des gens qui ont détesté le film. Puis pour moi, les deux réactions, c'est correct. Mm-hmm. C'est intéressant, il y a quelque chose... J'ai jamais aimé faire des films beige. Je pense que je m'en tire assez bien jusqu'à maintenant. Mais c'est ça, c'est la rencontre du public. C'est de voir comment... les gens vont réagir à un film, souvent à quelque chose que tu t'attendais pas. Comme en Italie, après, j'ai compris toute la relation à la mère, à la femme, à Pascal. Puis après ça, après avoir voyagé en Italie, j'ai compris à quel point ce pays-là était encore rural. Puis que c'est ça qui était venu chercher les gens. C'est ça qui a percolé chez les gens. Même chose en Espagne. Donc, des fois, on ne sait pas à quoi s'attendre. Puis ça, je trouve que c'est la beauté des festivals. Le prix, c'est la cerise sur le sundae. C'est ce qui s'ajoute à la liste pour en faire un autre. Mais je pense que juste le fait d'avoir la chance, le privilège de voyager avec nos films, pour moi, ça, c'est déjà... C'est déjà beaucoup, énorme.
Nonobstant le prix ou quoi que ce soit, je pense que le plus beau prix qu'on peut avoir, c'est d'être réinvité dans un même festival. En tout cas, pour moi, ce que je trouve fabuleux, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'être à la quinzaine avec Bleu Tonnerre. Et quand on a su, 2 ans plus tard, qu'on retournait à la quinzaine avec Crème de menthe, bien là, tu fais comme, OK, c'était pas juste un coup de dé, c'était pas, tu sais, je me dis... Chris, si on y va 2 fois en 3 ans, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire de la quinzaine, 2 fois en 3 ans, tu fais comme, OK, ben il doit avoir un petit quelque chose en arrière de ça. Fait que c'est le fun de voir, je ne sais pas si on dit une fidélisation au niveau des programmateurs, parce que des fois, c'est les programmateurs changent à l'intérieur d'un même festival, mais c'est de pouvoir retourner, voir ce même, je mets des guillemets, là, ce même, c'est le fun de mettre des guillemets à radio, ce même public-là qui, sans le savoir, sans dire qu'ils attendent, bien, qu'ils sont intéressés par voir qu'est-ce que t'as fait depuis. Donc, moi, c'est ça, moi, que je trouve plus intéressant d'en retourner dans un festival.
Et nul doute qu'on vous reverra ici, j'en suis quasiment persuadé. Daniel.
Oui, puis un truc qu'on entend souvent de nos invités ici québécois, c'est de rencontrer les autres créateurs québécois parce qu'entre vous, vous n'avez pas la chance de vous rencontrer souvent. Donc, nous, on crée des cohortes, puis quand on prépare notre programmation, Guillaume et moi, on essaye de voir qui va bien s'enligner ensemble. C'est pas évident.
C'est sûr qu'on se voit pas. On se voit pas un mercredi soir. On se voit pas un mercredi soir à Montréal. T'sais.
Non, puis on dirait que plus nos carrières avancent, plus on est occupé, plus on est loin. En tout cas, moi, personnellement,
Casanier.
Non, mais la pandémie aussi a fait que moi, oui. J'habite plus à Montréal. J'habite à temps plein dans les cantons de l'Est. Donc, c'est moins. C'est vrai que c'est moins propice. Puis c'est vraiment à l'étranger. Écoute, il y a des gens que j'ai rencontrés hier que je connaissais de nom, mais on se connaissait pas personnellement.
On va croiser les doigts pour que nos prochains invités arrivent. En tout cas, Jean-Marc Hiroy, des histoires inventées, c'est diffusé vendredi à 14h. Nevermind, le court-métrage, ce sera avant frontière. Et la carte blanche, ce sera jeudi matin, je dis pas
oui,
bêtise,
demain,
ça sera
demain,
10h.
Oui.
Et Guy Edouin, donc frontière, c'est vendredi à 21h. Et marécage, samedi à 16h. J'espère que je n'oublie pas de film. Je crois que je suis
non,
bon,
le compte
normalement.
Est bon.
Merci beaucoup à tous les deux. Avant de se quitter, tiens, et puisque nos invités qui suivent ne sont pas encore arrivés, il y a Joël qui est là. Voilà. On va faire une pause musicale avec Pilou. J'aimerais que vous me disiez un mot en tant que réalisateur sur la musique, justement, dans vos films. Quelle importance et comment vous la travaillez, avec qui, comment, quoi?
Moi, j'ai rencontré Olivier Larry, un compositeur d'origine française, mais totalement québécois. Puis, je suis quand même quelqu'un qui est très fidèle à mes équipes, qui est très fidèle aux gens avec qui je travaille. Puis, il y a quelque chose de le fun aussi, ça fait 3 films qu'on fait ensemble avec Olivier. Puis, à chaque film, on réfléchit à comment on peut innover, comment on peut aller plus loin, comment on peut réfléchir à la musique autrement ou comment on peut l'intégrer ou comment ou être plus classique ou aller chercher une nouvelle manière de faire. Donc, quelque chose de très... c'est drôle parce que marécage, je n'en avais pas de musique aussi.
Ouais,
puis mes courts-métrages non plus. Donc, c'est mon rapport à la musique a évolué avec le temps.
Et donc, tu files les images au compositeur? D'abord, quelques images, quelques rushs où tu lui parles juste d'une trame.
Non, j'essaie de l'impliquer dans le scénario, qu'on ait cette réflexion-là sur la musique, puis qu'on ait, puis d'avoir son... Moi, je suis une éponge aussi en même temps. Moi, je m'entoure, ça a toujours été ma philosophie, je m'entoure de gens qui sont vraiment meilleurs que moi. Donc, je pique leurs idées. Puis, c'est ça aussi. Je veux dire, Olivier, c'est un grand compositeur. Il connaît l'histoire de la musique. Il a une connaissance musicale beaucoup plus grande que moi. Donc, il y a des instruments. Bon. Fait que j'aime ça, m'abreuver, puis apprendre de tout ça. Puis après, on réfléchit, puis on voit comment. Mais tout part du scénario tout le temps.
Jean-Marc, moi, j'ai bu les paroles de Marc-André hein, dans Des histoires inventées. Vraiment, je ne me souviens pas de la musique. Je ne sais même pas s'il y en a. Mais c'est parce que vraiment,
oui,
j'ai
oui,
pris...
Y en a...
Voilà, mais je...
Moi, j'ai pour la première fois, j'ai travaillé avec un compositeur. C'était pour Des histoires inventées et pour Forêt noire, qui ont été tournées la même année. Moi, j'ai Moi, j'étais un grand amateur de musique, fait que j'y allais souvent plus dans la libération de droit parce que j'avais dans certains projets que je trouvais que ça fitait plus, puis j'avais des underscores qui étaient là, mais sinon, je capitalisais souvent sur une pièce. Quand j'ai fait des histoires inventées, je voulais encore une fois faire un contrepoint avec la musique, donc je me suis dit, à quoi on n'associera pas du tout. On n'associera pas Marc-André et son cinéma, ben je suis allé dans une espèce d'électro-ambiant avec un compositeur, Maxime, qui a fait un travail superbe là-dessus. Même chose pour Forêt Noire, on a travaillé, qui est une copro avec la France, d'ailleurs. Donc, on a travaillé avec Amaury Chabaty, qui fait beaucoup de musique de film ici en France. Et donc, on s'est présenté dans son studio, puis il a composé la musique, nous a fait des propositions, mais lui, il est vraiment parti sur l'image, une fois que le film était terminé. Okay. Et il y a peut-être un élément qu'on n'a pas parlé, Ben et Daniel, mais c'est que hier on a présenté en primeur la première bande-annonce de Ville-Jacques-Carton, qui est un projet qu'on vient de terminer conjointement, Marc-André et moi, en co-réalisation. Donc, c'est si tu as trouvé que des histoires inventées étaient une forme éclatée, watch out, parce que Ville-Jacques-Carton, c'est un hybride documentaire, fiction, archive, animation, poésie. Donc, on est dans une espèce de vraiment un ovni, là, un objet vidéo non identifiable. Donc, on va sortir ça là, au courant de l'été ou de l'automne. Donc, pour ça, on a travaillé avec François Pinet-Forcier, qui avait fait aussi la musique d'Ababouiné. Et là, ça a été une intégration à partir des premières étapes du montage. Donc, c'était vraiment... on n'a pas attendu, contrairement, mettons, à Forêt Noire, d'être picture lock puis d'envoyer ça au compositeur. Donc, il a vraiment été intégré, pas autant que Guy faisait référence là, au niveau du scénario puis de la construction, tout ça. Mais vraiment, une fois qu'on a ouvert la salle de montage, bien déjà, c'était avec un premier assemblage. Voici vers quoi le film va s'enligner. Propose-nous des pistes, ainsi de suite. Donc, il y a eu un dialogue qui a été fait aussi avec la monteuse et avec la conception sonore aussi, parce que moi, je travaille avec le même concepteur sonore depuis 2008-2009. C'est quelqu'un à qui je donne toute ma confiance et quelqu'un aussi qui m'a fait découvrir l'importance du son. Et depuis que j'ai rencontré Christian Rivet, je vais préférer regarder un film que l'image est dégueulasse puis que le son est bon que l'inverse. Il n'y a rien de plus irritant qu'un mauvais son dans un film. Et
c'est clair. Et ce n'est pas des gens de radio qui vont te contredire.
Et toutes les dimensions et les strates subtiles qu'on ne se rend pas compte qui sont... Tu sais, quand ils sont pas là, tu te rends pas compte qu'ils sont pas là, mais quand ils les ajoutent, le film explose, là, le film. Et ça a été une révélation. Parce que c'est ça, tu sais, j'étais habitué de faire des films avec des bouts de ficelle. Fait qu'on s'entend qu'on n'allait jamais en conception sonore. Puis quand j'ai eu la chance de commencer à faire de la conception sonore, je dis... excusez. Ma tête a explosé, puis ça a approché... mon approche du cinéma a changé aussi.
Mais la conception sonore peut complètement changer un film.
Vraiment. Comme critique de cinéma, moi, la première fois que, quand je dois écrire une critique, la première fois, je regarde le film, la deuxième fois, je l'écoute. Donc, j'écris en écoutant le film, puis quand, sur mon ordinateur, le film joue en arrière-plan, et si je veux revoir des séquences, je les regarde, mais je porte autant d'attention à l'image que le son, puis on l'oublie trop, le son. Mais le son, c'est 50% du film.
C'est aussi important que l'image.
Voilà. C'est 50%, c'est le chiffre à retenir.
Ouais.
Allez voir Frontières vendredi à 21h et Marrakech samedi à 16h. Merci beaucoup, Guy.
Merci beaucoup.
Et allez voir Des histoires inventées vendredi à 14h et court-métrage Nevermind juste avant Frontières, d'ailleurs, justement. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je vous souhaite un excellent festival, un bon séjour chez nous. Profitez-en bien. On va faire une petite pause musicale. Joël Vaudreuil est là, c'est sûr. Je ne sais pas si les autres invités seront là. Ouais, la surprise, on est en direct sur Radio Barta, c'est tout va bien. On fait une pause musicale avec Pilou, justement. Et Pilou, il sera en concert samedi, Pilou et Gallimard. Ce sera samedi soir à la salle des fêtes. Et il a fait la musique du film Vous n'êtes pas seul qui sera diffusé. Salut Léo, il sera diffusé, vous n'êtes pas seul, jeudi à 21h. Allez, on écoute Pilou, merci beaucoup à tous les deux.
enfant déjà, je chantais pour les gens de chez moi. C'était mon plaisir et ma vie, je ne pensais qu'à ça. Et je me demande aujourd'hui, quand je chante, si j'ai pas rêvé. Quand je suis là et quand je vois le rideau s'ouvre ou se lever. C'est une histoire trop jolie pour y croire, mais c'est mon histoire. Au fil des années, c'est vous qui l'écrivez pour moi chaque soir. Et moi je la vis, je la lis, j'en remplis ma mémoire. Merci à la chance de votre présence et merci d'être dans mon histoire. Des taxis et des trains et des avions géants. À peine le temps de regarder grandir les enfants. Je chante en Irlande, en Hollande et à Montréal. Merveilleux voyage dans un univers idéal. C'est une histoire trop jolie pour y croire, mais c'est mon histoire. Depuis des années, c'est vous qui l'écrivez pour moi chaque soir. Et moi je la vis, je la lis, j'en remplis ma mémoire. Et si à la chance et merci d'être dans mon histoire. C'est une histoire trop jolie pour y croire, mais c'est mon histoire. Au fil des années, c'est vous qui l'écrivez pour moi chaque soir. Et moi je la vis, je la lis, j'en remplis ma mémoire. Merci à la chance et merci d'être dans mon histoire.
Mais je m'ennuie pareil, as-tu compris? Je m'ennuie de tes cuisses, je m'ennuie de tes seins, je m'ennuie de tes yeux, t'ennuies-tu des miens? J'ai ben, dis-moi les buts, j'étais pas faite pour toi non plus. T'es faite comme un ordinateur, sorry no compute. C'est que je fasse ta. Calice reste donc juste une petite nuit, puis on va s'aimer jusqu'au matin. T'es obligé partir chez ben, mais t'es pas obligé de partir tout de suite. On va se rouler un gros pétard, on va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire, André, trop tard, on peut être copains si tu veux. On va se péter la fiole en deux. Tu vas me dire, André, est trop tard, on peut être copains si tu veux. Pis ça, je le sais, ça va me faire chier. C'est rien que copain, j'aime mieux tout seul. Mais je t'orgueilleux quand je suis avec toi. Ça fait que je vais fermer ma gueule. On va faire l'amour en silence, comme des amants un peu blasés. Avant de me donner mes vacances, fais-moi croire que je suis pas clairé.
Thank you. branché, distributeur de cochonneries et de bonheur préfabriqué. Allez-vous-en, paradis, bande de tête pilonchée. Moi, je t'en ai d'entendre vos conneries, vos saloperies, mes bons mentries, pis le voir aux yeux ambitionneux, crier au pire, j'ai réussi. Hostile, ici au moins, y'en avait moins, y'en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie. Kalichnikov et compagnie pour faire rouler l'économie. Pis si au moins, y'en avait moins, y'en avait moins de pauvres crétins prêts à mourir pour la patrie. Kalichnikov et compagnie pour faire rouler l'économie.
Bonjour, c'est moi le caméraman. Êtes-vous victime de quelque chose?
Ta gueule!
Oh oui, wow. Oh oui, wow, oui,
la caravane, madame, pour faire rouler l'économie.
Ta gueule!
De ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans la mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent, on se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Je m'arrête un instant pour te parler de la vie. Je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit. Et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi je suis bien et que j'ai plus doute.
mon frère. Parce que tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent. La vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent, dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.